Chapitre 9. Gentilhomme, cardinal et reine. Explication, l'arrestation, les procès-verbaux. À l'heure où M. de Breteuil était entré chez le roi, M. de Charny, pâle, agité, avait fait demander une audience à la reine. Celle-ci s'habillait. Elle vit par la fenêtre de son boudoir donnant sur la terrasse Charny, qui insistait pour être introduit. Elle donna ordre que le fit entrer avant même qu'il eût achevé sa demande, car elle cédait aux besoins de son cœur, et car elle se disait avec une noble fierté qu'un amour pur et immatériel comme le sien a droit d'entrer à toute heure dans le palais même des reines. Charny entra, toucha en tremblant la main que la reine lui tendait, et d'une voix étouffée, « Ah, madame, dit-il, quel malheur !»« En effet, qu'avez-vous ? » s'écria-t-elle en pâlissant de voir son ami si pâle. « Madame, savez-vous ce que je viens d'apprendre ? Savez-vous ce que l'on dit ? Savez-vous ce que le roi sait peut-être ou ce qu'il saura demain ?» Elle frissonna, songeant à cette nuit de chaste délice où peut-être un œil jaloux, ennemi, l'avait vue dans le parc de Versailles avec Charny. « Dites tout, je suis forte, répondit-elle, en appuyant une main sur son cœur. On dit, madame, que vous avez acheté un collier à Beumeur et Bossange. Je l'ai rendu, fit-elle vivement. Écoutez, on dit que vous avez faim de le rendre, que vous comptiez le voir payer, que le roi vous en a empêché en refusant de signer un bon de monsieur de Calonne, qu'alors vous vous êtes adressé à quelqu'un pour trouver de l'argent et que cette personne est votre amant. Vous, s'écria la reine avec un mouvement de confiance sublime, vous, monsieur, et laissez dire ceux qui disent cela, le titre d'amant n'est pas pour eux une injure aussi douce à lancer que le titre d'ami n'est une douce vérité consacrée désormais entre nous deux. Charny s'arrêta, confondu par cette éloquence mâle et féconde qui s'exhale de l'amour vrai comme le parfum essentiel du cœur de toute généreuse femme. Mais l'intervalle qu'il mit à répondre doubla l'inquiétude de la reine. Elle s'écria, « De quoi voulez-vous parler, monsieur de Charny ? La calomnie a un langage que je comprends jamais. Est-ce que vous l'avez compris, vous ? Madame, veuillez me prêter une attention soutenue. La circonstance est grave. Hier, je suis allé avec mon oncle, monsieur de Suffrène, chez les joailliers de la cour, Beumeur et Sange. Mon oncle a rapporté des diamants de l'Inde, il voulait les faire estimer. On a parlé de tout et de tous. Les joailliers ont raconté à monsieur le bailli une affreuse histoire commentée par les ennemis de votre majesté. Madame, je suis au désespoir, vous avez acheté le collier, dites-le-moi, vous ne l'avez pas payé, dites-le-moi encore, mais ne me laissez pas croire que monsieur de Rohan l'a payé pour vous. Monsieur de Rohan, s'écria la reine. Oui, monsieur de Rohan, celui qui passe pour l'amant de la reine, celui à qui la reine emprunte de l'argent, celui qu'un malheureux, qu'on appelle monsieur de Charny, a vu dans le parc de Versailles, souriant à la reine, s'agenouillant devant la reine, baisant les mains de la reine, celui... « Monsieur, s'écria Marie-Antoinette, si vous croyez, quand je ne suis plus là, c'est que vous ne m'aimez pas que j'y suis. » « Oh !» répliqua le jeune homme, « il y a un danger pressant. Je ne viens vous demander ni franchise ni courage, je viens vous supplier de me rendre un service. »« Et d'abord, dit la reine, quel danger, s'il vous plaît ?»« Le danger, madame, insensé, qui ne le devine pas, le cardinal répondant pour la reine, payant pour la reine, père la reine. » Je ne vous parle point ici du mortel déplaisir que peut causer à monsieur de Charny une confiance pareille à celle que vous inspire monsieur de Rohan. Non, de ces douleurs-là, on meurt, mais on ne se plaint pas. « Vous êtes fou !» dit Marie-Antoinette avec colère. « Je ne suis pas fou, madame, mais vous êtes malheureuse, vous êtes perdue. Je vous ai vue, moi, dans le parc. Je ne m'étais pas trompé, vous dis-je. Aujourd'hui a éclaté l'horrible, la mortelle vérité. Monsieur de Rohan se vante, peut-être. » La reine saisit le bras de Charny. « Fou, fou » répéta-t-elle avec une inexprimable angoisse. « Croyez la haine, croyez des ombres, croyez l'impossible, mais au nom du ciel, après ce que je vous ai dit, ne croyez pas que je sois coupable. Coupable, ce mot me fait bondir dans un brasier ardent. Coupable avec moi qui n'ai jamais pensé à vous sans prier Dieu de me pardonner cette seule pensée que j'appelais un crime. » « Oh, monsieur de Charny, si vous ne voulez pas que je sois perdue aujourd'hui, morte demain, ne me dites jamais que vous me soupçonnez, ou bien fuyez si loin que vous n'entendiez pas même le bruit de ma chute au moment de ma mort. » Olivier se tordait les mains avec angoisse. « Écoutez-moi, dit-il, si vous voulez que je vous rende un service efficace. » « Service de vous, s'écria la reine, de vous, plus cruel que mes ennemis, car ils ne font que m'accuser, eux, tandis que vous me soupçonnez, vous, un service de la part d'un homme qui me méprise. Jamais, monsieur, jamais !» Olivier se rapprocha et prit dans ses mains la main de la reine. « Vous verrez bien, dit-il, que je ne suis pas un homme qui gémit et qui pleure. Les moments sont précieux. Ce soir, il serait trop tard pour faire ce qui nous reste à faire. Voulez-vous me sauver du désespoir en vous sauvant de l'opprobre ?»« Monsieur, oh, je ne ménagerai plus mes paroles en face de la mort. Si vous ne m'écoutez pas, vous dis-je, ce soir, nous serons tous deux morts, vous, de honte, moi, de vous avoir vu mourir. Droit à l'ennemi, madame, comme dans nos batailles, droit au danger, droit à la mort. Allons-y ensemble, moi, comme l'obscur soldat, à mon rang, mais brave, vous le verrez. Vous, avec la majesté, avec la force au plus fort de la mêlée. Si vous y succombez, eh bien, vous ne serez pas seul. « Tenez, madame, voyez en moi un frère. Vous avez besoin d'argent pour payer ce collier. Moi, ne le niez pas. Et je vous dis, ne dites pas que vous n'avez pas le collier. Je vous jure. Ne jurez pas, si vous voulez, que je vous aime encore. Olivier, il vous reste un moyen de sauver à la fois votre honneur et mon amour. » Le collier vaut 1 600 000 livres. Vous en avez payé 250 000. Voici 1,5 million. Prenez-le. Mais qu'est-ce cela? Ne regardez pas. Prenez et payez. Vos biens vendus, vos terres acquises par moi et soldées, Olivier, vous vous dépouillez pour moi. Vous êtes un bon et noble cœur et je ne marchanderai plus les aveux d'un tel amour. Olivier, je vous aime. Acceptez. Non, mais je vous aime. « Monsieur de Rohan paiera donc. Songez-y, madame, ce n'est plus de votre part une générosité, c'est de la cruauté qui m'accable. Vous acceptez du cardinal. Moi, allons donc, monsieur de Charny, je suis la reine, et si je donne à mes sujets amour ou fortune, je n'accepte jamais. Qu'allez-vous faire alors ? C'est vous qui allez me dicter ma conduite. Que dites-vous, que pense monsieur de Rohan ? Il pense que vous êtes sa maîtresse. » « Vous êtes dur, Olivier. Je parle comme on parle en face de la mort. Que dites-vous, que pensent les joailliers? Que la reine, ne pouvant payer, monsieur de Rohan paiera pour elle. Que dites-vous qu'on pense dans le public au sujet du collier? Que vous l'avez caché, que vous l'avouerez seulement quand il aura été payé, soit par le cardinal dans son amour pour vous, soit par le roi dans sa peur du scandale. Bien, et vous, Charny, à votre tour, je vous regarde en face et vous demande, que pensez-vous des scènes que vous avez vues dans le parc de Versailles? Je crois, madame, que vous avez besoin de me prouver votre innocence, répliqua énergiquement le digne gentilhomme. La reine essuya la sueur qui coulait sur son front. Le prince Louis, cardinal de Rohan, grand aumônier de France, cria une voix d'huissier dans le corridor. Lui, murmura Charny. Voilà servi à souhait, dit la reine. Vous allez le recevoir? J'allais le faire appeler. Mais moi, entrez dans mon boudoir et laissez la porte entrebâillée pour bien entendre. Madame, allez vite, voici le cardinal. Elle poussa M. de Charny dans la chambre qu'elle lui avait indiquée, tira la porte qu'il convenait et fit entrer le cardinal. M. de Rohan parut au seuil de la chambre. Il était resplendissant dans son costume d'officiant. Derrière lui se tenait à distance une suite nombreuse dont les habits brillaient comme celui de leur maître. Parmi ces gens inclinés, on pouvait apercevoir Boehmer et Bossange, un peu embarrassés dans leurs vêtements de cérémonie. La reine alla au-devant du cardinal en essayant d'un sourire qui expira bientôt sur ses lèvres. Louis de Rohan était sérieux, triste même. Il avait le calme de l'homme courageux qui va combattre la menace imperceptible du prêtre qui va avoir à pardonner. La reine montra un tabouret, le cardinal resta debout. « Madame, dit-il, après s'être incliné, en tremblant visiblement, j'avais plusieurs choses importantes à communiquer à votre majesté qui prend à tâche d'éviter ma présence. « Moi, fit la reine, mais je vous évite si peu, monsieur le cardinal, que j'allais vous mander. » Le cardinal jeta un coup d'œil sur le boudoir. « Suis-je seul avec votre majesté, dit-il à voix basse, ai-je le droit de parler en toute liberté ?»« En toute liberté, monsieur le cardinal, ne vous contraignez pas, nous sommes seuls. » Et sa voix ferme semblait vouloir envoyer ses paroles au gentilhomme caché dans cette chambre voisine. Elle jouissait avec orgueil de son courage et de l'assurance qu'allait avoir, dès les premiers mots, monsieur de Charny, bien attentif sans doute. Le cardinal prit son parti. Il approcha le tabouret du fauteuil de la reine, de façon à se trouver le plus loin possible de la porte à deux battants. « Voilà bien des préambules, » dit la reine, affectant d'être enjouée. « C'est que, » dit le cardinal. « C'est que, » répéta la reine. « Le roi ne viendra pas ?» demanda monsieur de Rohan. « N'ayez donc peur ni du roi ni de personne !» répliqua vivement Marie-Antoinette. « Oh, c'est de vous que j'ai peur !» fit d'une voix émue le cardinal. « Alors, raison de plus, je ne suis pas bien redoutable. Dites en peu de mots, dites à haute et intelligible voix. J'aime la franchise, et si vous me ménagez, je croirai que vous n'êtes pas un homme d'honneur. » « Oh, pas de gestes encore, on m'a dit que vous aviez des griefs contre moi. Parlez, j'aime la guerre, je suis d'un sang qui ne s'effraie pas, moi. Vous aussi, je le sais bien, qu'avez-vous à me reprocher ?» Le cardinal poussa un soupir et se leva comme pour aspirer plus largement l'air de la chambre. Enfin, maître de lui-même, il commença en ces termes. Nous l'avons dit, la reine et le cardinal se trouvaient enfin face à face. Charny, dans le cabinet, pouvait entendre jusqu'à la moindre parole des interlocuteurs et les explications si impatiemment attendues des deux parts allaient enfin avoir lieu. « Madame, dit le cardinal en s'inclinant, vous savez ce qui se passe au sujet de notre collier ?»« Non, monsieur, je ne le sais pas et je suis aise de l'apprendre de vous. » « Pourquoi votre majesté me réduit-elle depuis si longtemps à ne plus communiquer avec elle que par intermédiaire? Pourquoi, si elle a quelque sujet de me haïr, ne me le témoigne-t-elle pas en me l'expliquant ?»« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur le cardinal, je n'ai aucun sujet de vous haïr, mais ce n'est pas, je crois, l'objet de notre entretien. Veuillez donc me donner sur ce malheureux collier un renseignement positif. Et d'abord, où est madame de Lamotte ? J'allais le demander à votre majesté. Pardon, mais si quelqu'un peut savoir où est madame de Lamotte, c'est vous, je pense. Moi, madame, à quel titre ? Oh, je ne suis pas ici pour recevoir vos confessions, monsieur le cardinal. J'ai eu besoin de parler à madame de Lamotte, je l'ai fait appeler, on l'a cherchée chez elle à des reprises, et elle n'a rien répondu. Cette disparition est étrange, vous m'avouerez. Moi aussi, madame, je m'étonne de cette disparition, car j'ai fait prier madame de Lamotte de venir voir. Elle n'a pas plus répondu à moi qu'à votre majesté. Alors laissons là la comtesse, monsieur, et parlons de nous. « Oh non, madame, parlons d'elle tout d'abord, car certaines paroles de votre majesté m'ont jeté dans un douloureux soupçon. Il me semble que votre majesté me reprochait des assiduités auprès de la comtesse. Je ne vous ai encore rien reproché du tout, monsieur, mais patience. Oh, madame, c'est qu'un pareil soupçon m'expliquerait toutes les susceptibilités de votre âme, et alors je comprendrais, tout en me désespérant, la rigueur, jusque-là inexplicable, dont vous avez usé vis-à-vis de moi. Voilà où nous cessons de nous comprendre, dit la reine. Vous êtes d'une obscurité impénétrable, et ce n'est pas pour nous embrouiller davantage que je vous demande des explications. Au fait, au fait. Madame, s'écria le cardinal en joignant les mains et en se rapprochant de la reine, faites-moi la grâce de ne pas changer de conversation. Deux mots de plus sur le sujet que nous traitions tout à l'heure et nous nous fussions entendus. En vérité, monsieur, vous parlez une langue que je ne sais pas. Reprenons le français, je vous prie. Où est ce collier que j'ai rendu au joaillier ? Le collier que vous m'avez rendu, s'écria monsieur de Rohan. Oui, qu'en avez-vous fait ?
Moi ? Mais je ne sais pas, madame.
Voyons, il y a une chose toute simple. Madame de Lamotte a pris ce collier, l'a rendu en mon nom. Les joailliers prétendent qu'ils ne l'ont pas repris. J'ai dans les mains un reçu qui prouve le contraire. Les joailliers me disent que le reçu est faux. Madame de Lamotte pourrait d'un mot expliquer tout. Elle ne se trouve pas. Eh bien, laissez-moi mettre des suppositions à la place des frais obscurs. Madame de Lamotte a voulu rendre le collier. Vous, dont ce fut toujours la manie, bienveillante sans doute, de me faire acheter ce collier, vous qui me l'avez apporté avec l'offre de payer pour moi, offre que votre majesté a refusée bien durement, dit le cardinal avec un soupir. « Bien oui, oui, vous avez persévéré dans cette idée fixe que je restasse en possession de ce collier, et vous ne l'aurez pas rendu au joaillier pour me le faire reprendre dans une occasion quelconque. Madame de Lamotte a été faible, elle qui savait mes répugnances, l'impossibilité où j'étais de payer, la résolution immuable que j'avais prise de ne pas avoir ce collier sans argent. Madame de Lamotte a conspiré avec vous, par zèle pour moi, et aujourd'hui elle craint ma colère et ne se présente pas. Est-ce cela, et je construis l'affaire au milieu des ténèbres? Dites-moi, oui, laissez-vous reprocher cette légèreté, cette désobéissance à mes ordres formels, vous en serez quitte pour une réprimande et tout sera fini. Je ferai plus, je vous promets le pardon de Madame de Lamotte, quelle sorte de sa pénitence, mais par grâce, de la clarté. Monsieur, je ne veux pas en ce moment qu'il plane une ombre sur ma vie. Je ne le veux pas, entendez-vous ?
La reine avait prononcé ces paroles avec une telle vivacité, elle les avait accentuées si vigoureusement que le cardinal n'avait ni osé ni pu l'interrompre, mais aussitôt qu'elle eut cessé, « Madame, dit-il en étouffant un soupir, je vais répondre à toutes vos suppositions. Non, je n'ai pas persévéré dans l'idée que vous deviez avoir le collier, attendu que j'étais assuré qu'il était en vos mains. Non, je n'ai en rien conspiré avec Madame de Lamotte au sujet de ce collier. Non, je ne l'ai pas plus que les joailliers ne l'ont, et vous ne dites l'avoir vous-même. »
« Il n'est pas possible, s'écria la reine avec stupeur, vous n'avez pas le collier. »
Non, madame, vous n'avez pas conseillé à madame de Lamotte de demeurer en dehors de tout ceci?
Non, madame, ce n'est pas vous qui l'a caché.
Non, madame, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue,
pas plus que vous, madame.
Mais alors, comment expliquez-vous ce qui arrive?
Madame, je suis forcé d'avouer que je ne l'explique pas, au surplus, ce n'est pas la première fois que je me plains à la reine de ne pas être compris par elle.
Quand donc cela, monsieur, je ne me le rappelle pas.
Soyez bonne, madame, dit le cardinal, et veuillez relire en idée mes lettres.
Vos lettres, dit la reine, surprise, vous m'avez écrit, vous?
Trop rarement, madame, pour tout ce que j'avais sur le cœur.
La reine se leva. « Il me semble, dit-elle, que nous nous trompons l'un et l'autre. Finissons vite cette plaisanterie. Que parlez-vous de lettres? Quelles lettres? Et qu'avez-vous sur le cœur ou dans le cœur? Je ne sais trop comment vous venez de dire cela. »
« Mon Dieu, madame, je me suis peut-être laissé aller à dire trop haut le secret de mon âme. »
« Quel secret? Êtes-vous donc dans votre bon sens, monsieur le cardinal? »
« Madame... »
Oh, ne tergiversons pas, vous parlez comme un homme qui veut me tendre un piège ou qui veut m'embarrasser devant des témoins.
Je vous jure, madame, que je n'ai rien dit. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui écoute?
Non, monsieur, mille fois non, il n'y a personne. Expliquez-vous complètement, et si vous jouissez de votre raison, prouvez-le. Oh, madame, pourquoi madame de Lamotte n'est-elle pas là? Elle m'aiderait, elle, notre amie, à réveiller, sinon l'attachement, du moins la mémoire de votre majesté. Notre amie, mon attachement, ma mémoire, je tombe des nues. Ah, madame, je vous prie, dit le cardinal, révolté par le ton aigre de la reine, épargnez-moi, libre à vous de n'aimer plus, n'offensez pas. Mon Dieu, s'écria la reine en pâlissant, ah, mon Dieu, que dit cet homme? Très bien, continua monsieur de Rohan, qui s'animait à mesure que la colère montait en bouillonnant. Très bien, madame, je crois avoir été assez discret et assez réservé pour que vous ne me maltraitiez pas. Je ne vous reproche d'ailleurs que des griefs frivoles. J'ai le tort de me répéter. J'eusse dû savoir que quand une reine a dit « je ne veux plus », c'est une loi aussi impérieuse que lorsqu'une femme a dit « je veux ». La reine poussa un cri farouche et saisit le cardinal par sa manche de dentelle. « Dites vite, monsieur, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai dit « je ne veux plus » et j'avais dit « je veux ». À qui ai-je dit l'un? À qui ai-je dit l'autre? Mais à moi, tous les deux, à vous. Oubliez que vous avez dit l'un, moi je n'oublie pas que vous avez dit l'autre. Vous êtes un misérable, monsieur de Rohan, vous êtes un menteur. « Moi? Vous êtes un lâche, vous calomniez une femme. Moi? Vous êtes un traître, vous insultez la reine. Et vous, vous êtes une femme sans cœur, une reine sans foi. Malheureux! Vous m'avez amené par degrés à prendre pour vous un fol amour. Vous m'avez laissé m'abreuver d'espérance. D'espérance, mon Dieu, suis-je une folle? Est-ce un scélérat? Est-ce moi qui vous aurais jamais osé demander les audiences nocturnes que vous m'accordâtes? La reine poussa un hurlement de rage auquel répondit un long soupir dans le boudoir. Est-ce moi, poursuivit monsieur de Rohan, qui aurais osé venir seul dans le parc de Versailles si vous ne m'eussiez envoyé madame de Lamotte? Mon Dieu! Est-ce moi qui aurais osé voler la clé qui ouvre la porte de la louveterie? Dieu, est-ce moi qui aurais osé vous demander d'apporter la rose que voici, rose adorée, rose maudite, séchée, brûlée sous mes baisers? Mon Dieu, est-ce moi qui vous ai forcé de descendre le lendemain, de me donner vos deux mains, dont le parfum dévore incessamment mon cerveau et me rend fou? Vous avez raison de me le reprocher. Oh, assez, assez! Est-ce moi, enfin, qui, dans mon plus furieux orgueil, aurais jamais osé rêver cette troisième nuit au ciel blanc, au doux silence, aux perfides amours? Monsieur, monsieur, cria la reine en reculant devant le cardinal, vous blasphémez! Mon Dieu, répliqua le cardinal en levant les yeux au ciel, tu sais si pour continuer à être aimé de cette femme trompeuse, j'eusse donné mes biens, ma liberté, ma vie. Monsieur de Rohan, si vous voulez conserver cela, vous allez dire ici même que vous cherchez à me perdre, que vous avez inventé toutes ces horreurs, que vous n'êtes pas venu à Versailles la nuit. J'y suis venu, répliqua noblement le cardinal. Vous êtes mort si vous soutenez ce langage. Rohan ne ment pas, j'y suis venu. Monsieur de Rohan, au nom du ciel, dites que vous ne m'avez pas vu dans le parc. Je mourrai s'il le faut, comme vous m'en menaciez tout à l'heure, mais je n'ai vu que vous dans le parc de Versailles où me conduisait madame de Lamotte. Encore une fois, s'écria la reine, livide et tremblante, rétractez-vous! Non. Une seconde fois, dites que vous avez tramé contre moi cette infamie. Non! Une dernière fois, monsieur de Rohan, avouez qu'on peut vous avoir trompé vous-même et que tout cela fut une calomnie, un rêve, l'impossible, je ne sais quoi, mais avouez que je suis innocente, que je puis l'être. Non. La reine se redressa, terrible et solennelle. Vous allez donc avoir affaire, dit-elle, à la justice du roi, puisque vous récusez la justice de Dieu. Le cardinal s'inclina sans rien dire. La reine sonna si violemment que plusieurs de ses femmes entrèrent à la fois. « Qu'on prévienne sa majesté, dit-elle, en essuyant ses lèvres, que je la prie de me faire l'honneur de passer chez moi. » Un officier partit pour exécuter cet ordre. le cardinal décida tout, demeura intrépidement dans un coin de la chambre. Marie-Antoinette alla 10 fois vers la porte du boudoir sans y entrer, comme si, chaque fois, ayant perdu la raison, elle la retrouvait en face de cette porte. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées dans ce terrible jeu de scène que le roi parut au seuil, la main dans son jabot de dentelle. Il voyait toujours au plus profond du groupe la mine effarée de Boehmer et Bossange qui flairait l'orage. À peine le roi eut-il paru au seuil du cabinet que la reine l'interpella avec une volubilité extraordinaire. « Sire, dit-elle, voici monsieur le cardinal de Rohan qui dit des choses bien incroyables. Veuillez donc le prier de vous les répéter. » À ces paroles inattendues, à cette apostrophe soudaine, le cardinal pâlit. En effet, la position était si étrange que le prélat cessait de comprendre. Pouvait-il répéter à son roi, le prétendu amant, pouvait-il déclarer au mari, le sujet respectueux, tout ce qu'il croyait avoir de droit sur la reine et sur la femme? Mais le roi, se retournant vers le cardinal, absorbé dans ses réflexions, « À propos d'un certain collier, n'est-ce pas, monsieur, dit-il, vous avez des choses incroyables à me dire, et moi, des choses incroyables à entendre. Parlez donc, j'écoute. » Monsieur de Rohan prit sur le champ son parti. Des 2 difficultés, il choisirait la moindre, des 2 attaques, il subirait la plus honorable pour le roi et la reine. Et si imprudemment on le jetait dans le second péril, eh bien, il en sortirait comme un brave homme et comme un chevalier. « À propos du collier, oui, sire, murmura-t-il. « Mais, monsieur, dit le roi, vous avez donc acheté ce collier ?»« Sire, oui ou non ?» Le cardinal regarda la reine et ne répondit pas. « Oui ou non, répéta-t-elle, la vérité, monsieur, la vérité, on ne vous demande pas autre chose. » Monsieur de Rohan détourna la tête et ne répliqua point. « Puisque monsieur de Rohan ne veut pas répondre, répondez-vous, madame, dit le roi, vous devez savoir quelque chose de tout cela. Avez-vous acheté, oui ou non, ce collier ?»« Non, dit la reine avec force. » Monsieur de Rohan tressaillit. « Voici une parole de reine !» s'écria le roi avec solennité. « Prenez-y garde, monsieur le cardinal !» Monsieur de Rohan laissa glisser sur ses lèvres un sourire de mépris. « Vous ne dites rien ?» fit le roi. « De quoi m'accuse-t-on, sire ? Les joailliers disent avoir vendu un collier à vous ou à la reine. Ils montrent un reçu de sa majesté. « Le reçu est faux !» dit la reine. « Les joailliers, continua le roi, disent qu'à défaut de la reine, ils sont garantis par des engagements que vous avez pris, monsieur le cardinal. »« Je ne refuse pas de payer, sire, dit monsieur de Rohan. Il faut bien que ce soit la vérité, puisque la reine le laisse dire. » Et un second regard plus méprisant que le premier termina sa phrase et sa pensée. La reine frissonna. Ce mépris du cardinal n'était pas pour elle une insulte, puisqu'elle ne le méritait pas, mais ce devait être la vengeance d'un honnête homme. Elle s'effraya. « Monsieur le cardinal, reprit le roi, il ne reste pas moins dans cette affaire qu'un faux a été commis, qui compromet la signature de la reine de France. »« Un autre faux, s'écria la reine, et celui-là, « peut-il être imputé à un gentilhomme? C'est celui qui prétend que les joailliers ont repris le collier. »« Libre à la reine, dit monsieur de Rohan, du même ton, de m'attribuer les 2 faux, en avoir fait 1, en avoir fabriqué 2, où est la différence ?» La reine faillit éclater d'indignation. Le roi la retint d'un geste. « Prenez garde, dit-il encore au cardinal, vous aggravez votre position, monsieur, je vous dis, justifiez-vous et vous avez l'air d'accuser. » Le cardinal réfléchit un moment, et puis, comme s'il succombait sous le poids de cette mystérieuse calomnie qui étreignait son honneur, « Me justifier, dit-il, impossible. Monsieur, il y a là des gens qui disent qu'un collier leur a été volé. » En proposant de le payer, vous avouez que vous êtes coupable. Qui le croira ? Dit le cardinal avec un suprême dédain. Alors, monsieur, si vous ne supposez pas que l'on vous croit, on croira donc. et un frissonnement de colère bouleversa le visage ordinairement si placide du roi. « Sire, je ne sais rien de ce qui s'est dit, » répliqua le cardinal, « je ne sais rien de ce qui s'est fait. Tout ce que je puis affirmer, c'est que je n'ai pas eu le collier. Tout ce que je puis affirmer, c'est que les diamants sont au pouvoir de quelqu'un qui devrait se nommer, qui ne le veut pas, et me force ainsi à lui dire cette parole de l'Écriture, le mal retombe sur la tête de celui qui l'a commis. » À ces mots, la reine fit un mouvement pour prendre le bras du roi qui lui dit « Le débat est entre vous et lui, madame. Une dernière fois, avez-vous ce collier ?»« Non, sur l'honneur de ma mère, sur la vie de mon fils, » répondit la reine. Le roi, plein de joie après cette déclaration, se tourna vers le cardinal. « Alors c'est une affaire entre la justice et vous, monsieur, » dit-il, « à moins que vous ne préfériez vous en rapporter à ma clémence. »« La clémence des rois est faite pour les coupables, sire, » répondit le cardinal. « Je lui préfère la justice des hommes. »« Vous ne voulez rien avouer. »« Je n'ai rien à dire. » »« Mais enfin, monsieur, » s'écria la reine, « votre silence laisse mon honneur en jeu. » Le cardinal se tut. « Eh bien, moi, je ne me tairai pas, » continua la reine. « Ce silence me brûle. Il atteste une générosité dont je ne veux pas. Apprenez, sire, que tout le crime de monsieur le cardinal n'est pas dans la vente ou dans le vol du collier. » Monsieur de Rohan releva la tête et pâlit. « Qu'est-ce à dire ? » fit le roi inquiet. « Madame, » murmura le cardinal épouvanté. « Oh, nulle raison, nulle crainte, nulle faiblesse ne fermera ma bouche. J'ai là dans mon cœur des motifs qui me pousseraient à crier mon innocence sur une place publique. »« Votre innocence, » dit le roi, « et madame qui serait assez téméraire ou assez lâche pour obliger votre majesté à prononcer ce mot. »« Je vous supplie, madame, » dit le cardinal. « Ah, vous commencez à trembler. J'avais donc deviné juste. Vos complots aiment à l'ombre. Ah, moi, le grand jour, sire, sommez monsieur le cardinal de vous dire ce qu'il m'a dit tout à l'heure ici, à cette place. »« Madame, madame, » fit monsieur de Rohan, « prenez garde, vous passez les bornes. » « Plaît-il ? » fit le roi avec hauteur. « Qui donc parle ainsi à la reine ? Ce n'est pas moi, je suppose. » « Voilà, justement, sire, » dit Marie-Antoinette, « monsieur le cardinal parle ainsi à la reine parce qu'il prétend en avoir le droit. »« Vous, monsieur, » murmura le roi, devenu livide. « Lui !» s'écria la reine avec mépris. « Lui !»« Monsieur le cardinal a des preuves, » reprit le roi en faisant un pas vers le prince. « Monsieur de Rohan a des lettres à ce qu'il dit, » fit la reine. « Voyons, monsieur, » insista le roi. « C'est lettre !» cria la reine avec emportement. « C'est lettre !» Le cardinal passa la main sur son front glacé par la sueur et sembla demander à Dieu comment il avait pu former dans la créature tant d'audace et de perfidie. Mais il se tut. « Oh, ce n'est pas tout !» poursuivit la reine, qui s'animait peu à peu sous l'influence de sa générosité même. « Monsieur le cardinal a obtenu des rendez-vous !» « Madame, par pitié, » fit le roi. « Par pudeur, » fit le cardinal. « Enfin, monsieur, » reprit la reine, « si vous n'êtes pas le dernier des hommes, si vous tenez quelque chose pour sacré dans ce monde, vous avez des preuves, fournissez-les. » Monsieur de Rohan releva lentement la tête et répondit, « Non, madame, je n'en ai pas. » « Vous n'ajouterez pas ce crime aux autres, » continua la reine, « vous n'entasserez pas sur moi, opprobre après opprobre, vous avez une aide, une complice, un témoin dans tout cela, nommez-la ou nommez-le. »« Quoi donc ? » s'écria le roi. « Madame de la Motte, sire, » fit la reine. « Ah ! » dit le roi, triomphant de voir enfin que ses préventions contre Jeanne se trouvaient justifiées. « Allons donc, eh bien, qu'on la voie, cette femme, qu'on l'interroge. » « Ah bien oui !» s'écria la reine, « elle a disparu. Demandez à monsieur ce qu'il en a fait, il avait trop d'intérêt à ce qu'elle ne fût pas en cause. »« D'autres l'auront fait disparaître, » répliqua le cardinal, « qui avait intérêt plus encore que moi. C'est ce qui fait qu'on ne la retrouvera point. »« Mais monsieur, puisque vous êtes innocent, » dit la reine avec fureur, « aidez-nous donc à trouver les coupables. » Mais le cardinal de Rohan, après avoir lancé un dernier regard, tourna le dos et croisa les bras. « Monsieur, dit le roi offensé, vous allez vous rendre à la Bastille. » Le cardinal s'inclina, puis, d'un ton assuré, « Ainsi vêtu, dit-il, avec mes habits pontificaux, devant toute la cour, veuillez y réfléchir, sire, le scandale est immense, il n'en sera que plus lourd pour la tête sur laquelle retombera. « Je le veux ainsi, fit le roi, fort agité. « C'est une douleur injuste que vous faites prématurément subir à un prélat, sire, et la torture avant l'accusation, ce n'est pas légal. » « Il faut qu'il en soit ainsi, répondit le roi, en ouvrant la porte de la chambre pour chercher des yeux quelqu'un à qui transmettre son ordre. Monsieur de Breteuil était là. Ses yeux dévorants avaient deviné, dans l'exaltation de la reine, dans l'agitation du roi, dans l'attitude du cardinal, la ruine d'un ennemi. Le roi n'avait pas achevé de lui parler bas que le garde des Sceaux, usurpant les fonctions du capitaine des gardes, cria d'une voix éclatante qui retentit jusqu'au fond des galeries « Arrêtez, monsieur le cardinal !» Monsieur de Rohan tressaillit. Les murmures qu'il entendit sous les voûtes, l'agitation des courtisans, l'arrivée subite des gardes du corps, donnaient à cette scène un caractère de sinistre augure. Le cardinal passa devant la reine sans la saluer, ce qui fit bouillir le sang de la fière princesse. Il s'inclina très humblement en passant devant le roi et prit en passant près de monsieur de Breteuil une expression de pitié si habilement nuancée que le baron dut croire qu'il ne s'était pas assez vengé. Un lieutenant des gardes s'approcha timidement et sembla demander au cardinal lui-même la confirmation de l'ordre qu'il venait d'entendre. « Oui, monsieur, lui fit le cardinal de Rohan, oui, c'est bien moi qui suis arrêté. Vous conduirez monsieur à son appartement en attendant ce que j'aurai décidé pendant la messe, dit le roi, au milieu d'un silence de mort. Le roi demeura seul chez la reine, portes ouvertes, tandis que le cardinal s'éloignait lentement par la galerie, précédé du lieutenant des gardes, le chapeau à la main. « Madame, dit le roi, haletant, parce qu'il s'était contenu à grand-peine, vous savez que cela aboutit à un jugement public, c'est-à-dire à un scandale sous lequel tombera l'honneur des coupables. « Merci, s'écria la reine en serrant avec effusion les mains du roi, vous avez choisi le seul moyen de me justifier. » « Vous me remerciez ? De toute mon âme, vous avez agi en roi, moi en reine, croyez-le bien. »« C'est bien, répondit le roi, comblé d'une vive joie. Nous aurons raison enfin de toutes ces bassesses, quand le serpent aura été une fois pour toutes écrasé par vous et par moi. Nous vivrons tranquilles, j'espère. » Il baisa la reine au front et rentra chez lui. Cependant, à l'extrémité de la galerie, monsieur de Rohan avait trouvé Boehmer et Bossange à moitié évanouis dans les bras l'un de l'autre. Puis, à quelques pas de là, le cardinal aperçut son coureur qui, effaré de ce désastre, guettait un regard de son maître. « Monsieur, dit le cardinal à l'officier qui le guidait, en passant toute cette journée ici, je vais inquiéter bien du monde. Est-ce que je ne puis pas annoncer chez moi que je suis arrêté ?» « Oh, monseigneur, pourvu que nul ne vous voie, » dit le jeune officier. Le cardinal remercia. Puis, adressant la parole en allemand à son coureur, il écrivit quelques mots sur une page de son missel qu'il déchira. Et derrière l'officier, qui guettait, pour ne pas être surpris, le cardinal roula cette feuille et la laissa tomber. « Je vous suis, monsieur, » dit-il à l'officier. En effet, ils disparurent tous deux. Le coureur fondit sur ce papier comme un vautour sur sa proie, s'élança hors du château, enfourcha son cheval et s'enfuit vers Paris. Le cardinal put le voir au champ par une des fenêtres de l'escalier qu'il descendait avec son guide. « Elle me perd, murmura-t-il, je la sauve. C'est pour vous, mon roi, que j'agis. C'est pour vous, mon Dieu, qui commandez le pardon des injures. C'est pour vous que je pardonne aux autres. Pardonnez-moi. » À peine le roi était-il rentré heureux dans son appartement, signait-il l'ordre de conduire monsieur de Rohan à la Bastille, que parut monsieur le comte de Provence, lequel entra dans le cabinet en faisant à monsieur de Breteuil des signes que celui-ci, malgré tout son respect et sa bonne volonté, ne put comprendre. Mais ce n'était pas au garde des Sceaux que s'adressaient ces signes, le prince les multipliait ainsi à dessein d'attirer l'attention du roi qui regardait dans une glace tout en rédigeant son ordre. Cette affectation ne manqua pas son but, le roi aperçut ces signes et, après avoir congédié monsieur de Breteuil, « Pourquoi faisiez-vous signe à Breteuil ? » dit-il à son frère. « Oh, sire ! Mais cette vivacité des gestes, cet air préoccupé, signifie quelque chose ? Sans doute, mais... Libre à vous de ne pas parler, mon frère, dit le roi d'un air piqué. Sire, c'est que je viens d'apprendre l'arrestation de monsieur le cardinal de Rohan. Eh bien, en quoi cette nouvelle, mon frère, peut-elle causer chez vous cette agitation ? Est-ce que monsieur de Rohan ne vous paraît pas bien coupable ? Est-ce que j'ai tort de frapper, même le puissant ? Tort ? Non pas, mon frère, vous n'avez pas tort, ce n'est pas ce que je veux dire. Il m'eût fort surpris, monsieur le comte de Provence, que vous donnassiez gain de cause contre la reine à l'homme qui cherche à la déshonorer. Je viens de voir la reine, mon frère, un modèle a suffi. Oh, sire, à Dieu ne plaise que j'accuse la reine, vous le savez bien, sa majesté, ma sœur n'a pas d'amis plus dévoués que moi. Combien de fois ne m'est-il pas arrivé de la défendre, au contraire, et ceci soit dit sans reproche, même contre vous ? En vérité, mon frère, on l'accuse donc bien souvent. J'ai du malheur, sire, vous m'attaquez sur chacune de mes paroles. Je voulais dire que la reine ne me croirait pas elle-même si je paraissais douter de son innocence. Alors, vous applaudissez avec moi de l'humiliation que je fais subir au cardinal, du procès qui va en résulter, du scandale qui va mettre un terme à toutes les calomnies qu'on oserait se permettre contre une simple femme de la cour et dont chacun ose se faire l'écho parce que la reine, dit-on, est au-dessus de ses misères. Oui, sire, j'approuve complètement la conduite de votre majesté, et je dis que tout est pour le mieux quant à l'affaire du collier. Par Dieu, mon frère, dit-il, rien de plus clair. Ne voit-on pas d'ici monsieur de Rohan, se faisant gloire de la familière amitié de la reine, concluant en son nom un marché pour les diamants qu'elle a refusés, et laissant dire que ces diamants ont été pris par la reine ou chez la reine, c'est monstrueux. Et comme elle le disait, que croirait-on si j'avais eu, avec monsieur de Rohan, ce trafic mystérieux ? Sûr. Et puis, vous ignorez, mon frère, que jamais une calomnie ne s'arrête à moitié chemin, que la légèreté de monsieur de Rohan compromet la reine, mais que le récit de ses légèretés la déshonore. Oui, mon frère, oui, je le répète, vous avez eu bien raison quant à ce qui concerne l'affaire du collier. Eh bien, mais, dit le roi, surpris, est-ce qu'il y a encore une autre affaire ? Mais, sire... La reine a dû vous dire... Me dire, quoi donc ? Sire, vous voulez m'embarrasser, il est impossible que la reine ne vous ait pas dit... Quoi donc, monsieur, quoi donc ? Sire... Ah, les fanfaronnades de monsieur de Rohan, ses réticences, ses prétendues correspondances. Non, sire, non. Et quoi donc, alors, les entretiens que la reine aurait accordés à monsieur de Rohan pour l'affaire du collier en question ? Non, sire, ce n'est pas cela. Tout ce que je sais, reprit le roi, c'est que j'ai en la reine une confiance absolue, qu'elle mérite par la noblesse de son caractère. Il était facile à sa majesté de ne rien dire de tout ce qui se passe. Il était facile à elle de payer ou de laisser payer à d'autres, de payer ou de laisser dire. La reine, en arrêtant court à ces mystères qui devenaient des scandales, m'a prouvé qu'elle en appelait à moi avant d'en appeler à tout le public. C'est moi que la reine a fait appeler, c'est à moi qu'elle a voulu confier le soin de venger son honneur. Elle m'a pris pour confesseur, pour juge, la reine m'a donc tout dit. « Eh bien, répliqua le comte de Provence, moins embarrassé qu'il n'eût dû l'être parce qu'il sentait la conviction du roi moins solide qu'on ne voulait le lui faire voir, voilà que vous faites encore le procès à mon amitié, à mon respect pour la reine, ma sœur. Si vous procédez contre moi avec cette susceptibilité, je ne vous dirai rien, craignant toujours, moi qui défends, de passer pour un ennemi ou un accusateur. Et cependant, voyez combien en ceci vous manquez de logique. Les aveux de la reine vous ont déjà conduit à trouver une vérité qui justifie ma sœur. Pourquoi ne voudriez-vous pas confier lui à vos yeux d'autres clartés, plus propres encore à révéler toute l'innocence de la reine ? C'est que, dit le roi gêné, vous commencez toujours, mon frère, par des circuits dans lesquels je me perds. Précautions oratoires, sire, défaut de chaleur, hélas, j'en demande pardon à sa majesté, c'est mon vice d'éducation. Cicéron m'a gâté. Mon frère Cicéron n'est jamais louche que quand il défend une mauvaise cause. Vous, vous en tenez une bonne. Soyez clair, pour l'amour de Dieu. Me critiquer dans ma façon de parler, c'est me réduire au silence. Allons, voilà l'irritabile genus rhetorum qui reprend la mouche, s'écria le roi, dupe de cette rouerie du comte de Provence. « Au fait, avocat, au fait, que savez-vous de plus que ce que m'a dit la reine ?»« Mon Dieu, sire, rien et tout. Précisons d'abord ce que vous a dit la reine. »« La reine m'a dit qu'elle n'avait pas le collier. »« Bon, elle m'a dit qu'elle n'avait pas signé le reçu des joailliers. »« Bien. » Elle m'a dit que tout ce qui avait rapport à un arrangement avec monsieur de Rohan était une fausseté inventée par ses ennemis. Très bien, sire. Elle a dit enfin que jamais elle n'avait donné à monsieur de Rohan le droit de croire qu'il fût plus qu'un de ses sujets, plus qu'un indifférent, plus qu'un inconnu. Ah, elle a dit cela, et d'un ton qui n'admettait pas la réplique, car le cardinal n'a pas répliqué. Alors, sire, puisque le cardinal n'a rien répliqué, c'est qu'il s'avoue menteur, et il donne par ce désaveu raison à d'autres bruits qui courent sur certaines préférences accordées par la reine à certaines personnes. Mon Dieu, quoi encore ? Dit le roi avec découragement. Oh, rien que de très absurde, comme vous l'allez voir, du moment où il était constaté que monsieur de Rohan ne s'était pas promené avec la reine. Comment, s'écria le roi, monsieur de Rohan, disait-on, s'était promené avec la reine, ce qui est bien démenti par la reine elle-même, sire, et par le désaveu de monsieur de Rohan. Mais enfin, du moment où cela est constaté, vous comprenez qu'on a dû chercher. La malignité ne s'en est pas abstenue. Comment il se faisait que la reine se promenât la nuit dans le parc de Versailles ? La nuit, dans le parc de Versailles, la reine ? Et avec qui elle se promenait ? Continua froidement le comte de Provence. « Avec qui ? » murmura le roi. Mais sans doute, est-ce que tous les yeux ne s'attachent pas à ce que fait la reine ? Est-ce que ses yeux, que jamais n'éblouit l'éclat du jour ou l'éclat de la majesté, ne sont pas plus clairvoyants encore quand il s'agit de voir la nuit ? Mais, mon frère, vous dites là des choses infâmes, prenez-y garde ! Sire, je répète, et je répète avec une telle indignation que je pousserai votre majesté, j'en suis sûr, à découvrir la vérité. Comment, monsieur, on dit que la reine s'est promenée la nuit, en compagnie, dans le parc de Versailles ? Pas en compagnie, sire, en tête à tête. Oh, si l'on disait en compagnie, la chose ne vaudrait pas la peine que nous en prissions garde. Le roi éclatant tout à coup, « Vous m'allez prouver ce que vous répétez, dit-il, et pour cela, prouvez ce qu'on a dit !»« Oh, facilement, trop facilement, répondit monsieur de Provence, il y a quatre témoignages. Le premier est celui de mon capitaine des chasses qui a vu la reine deux jours de suite, ou plutôt deux nuits de suite, sortir du parc de Versailles par la porte de la Louveterie. » Voici le titre, il est revêtu de sa signature. Lisez. Le roi prit en tremblant le papier, le lut et le rendit à son frère. Vous en verrez, sire, un plus curieux. Il est du garde de nuit qui veille à Trianon. Il déclare que la nuit a été bonne, qu'un coup de feu a été tiré, par des braconniers sans doute dans le bois de Satory, que quant au parc, ils ont été calmes, excepté le jour où Sa Majesté la Reine y a fait une promenade avec un gentilhomme à qui elle donnait le bras. Voici, le procès-verbal est explicite. Le roi lut encore, frissonna et laissa tomber ses bras à son côté. Le troisième, continua imperturbablement monsieur le comte de Provence, est du Suisse de la porte de l'Est. Cet homme a vu et reconnu la reine au moment où elle sortait par la porte de la Louveterie. Il a dit comment la reine était vêtue. Voyez, sire, il dit aussi que de loin il n'a pu reconnaître le gentilhomme que Sa Majesté quittait, c'est écrit, mais qu'à sa tournure il l'a pris pour un officier. Ce procès-verbal est signé. Il ajoute une chose curieuse, à savoir que la présence de la reine ne peut être révoquée en doute parce que Sa Majesté était accompagnée de Madame de Lamotte, amie de la reine. « Ami de la reine !» s'écria le roi furieux. « Oui, il y a cela, ami de la reine !»« Ne veuillez pas de mal à cet honnête serviteur, sire. Il n'est peut-être coupable que d'un excès de zèle. Il est chargé de garder, il garde, de veiller, il veille. » Le dernier, continua le comte de Provence, me paraît le plus clair de tous. Il est du maître serrurier, chargé de vérifier si toutes les portes sont fermées après la retraite battue. Cet homme, votre majesté le connaît, il certifie avoir vu entrer la reine avec un gentilhomme dans les bains d'Apollon. Le roi, pâle et étouffant son ressentiment, arracha le papier des mains du comte et le lut. Monsieur de Provence continua néanmoins cette lecture. Il est vrai que Madame de Lamotte était dehors à une vingtaine de pas et que la reine ne demeura qu'une heure environ dans la salle. « Mais le nom du gentilhomme ! » s'écria le roi. « Sire, ce n'est pas dans le rapport qu'on le nomme. Il faut pour cela que Sa Majesté prenne la peine de parcourir le dernier certificat que voici. Il est d'un garde forestier qui se tenait à l'affût derrière le mur d'enceinte, près des bains d'Apollon. « Daté du lendemain, fit le roi. Oui, sire, et qui a vu la reine sortir du parc par la petite porte et regarder au dehors. Elle tenait le bras de monsieur de Charny. « Monsieur de Charny !» s'écria le roi, à demi-fou de colère et de honte. « Bien, bien, attendez-moi ici, comte, nous allons enfin savoir la vérité !» Et le roi s'élança hors de son cabinet.